Alors, en ce samedi 4 octobre, eh bien nous allons encore, pour ceux qui étaient là les dernières fois, parler de la prière. J'espère que vous ne lassez pas d'entendre parler de la prière. Pourquoi nous parlons de la prière ? Parce que Jésus lui-même nous dit, à propos de certains démons qui ne partent que par la prière et le jeûne, disent certaines versions. Prière, donc, qui est plus forte lorsqu'elle est accompagnée du jeûne. Mais quelle prière ? C'est ça la question. Car vous avez sans doute lu le catéchisme de l'Église catholique et dans le paragraphe superstition, eh bien, il est dit que dire des formules, juste des formules, c'est de la superstition, c'est pas de la prière. Alors on va être bien d'accord sur ce qu'est la prière. Pour ça que je prends un peu de temps. J'ai d'ailleurs regardé les livres qui étaient vendus ici. J'en parle au père Bernard, je ne l'ai pas dit. Mais il y a un livre qui s'appelle « Pour se défendre du malin », donc Fusco. Personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec le cahier jaune qui est au centre de ce livre. Si vous souffrez de problèmes au cœur, faites telle prière, le démon n'aime pas ça. Si vous souffrez de tel truc, faites telle prière. Moi, je vous déconseille cette démarche-là. Pourquoi ? Parce qu'on est à la limite de la magie. Voilà. Donc, c'est important de se le dire. Je l'aurais dit. Tout le reste dans ce livre est bien. Pour moi, c'est bien. Mais je pense que ce cahier central peut nous induire en erreur. C'est pas le fait de dire des prières pour tel truc, qui font qu'on va être guéri, pensez bien. La prière, c'est d'abord une question de foi. Est-ce que je me fais comprendre ? Alors, en passant, je vous rappelle juste, c'est mon introduction, quelles sont les démarches indispensables si on veut une libération, quelle qu'elle soit. Première démarche indispensable, eh bien, se repentir de ses péchés, demander pardon à Dieu. Donc, je vous rappelle que le premier lieu de libération, c'est le confessionnal. Confessez-vous le plus souvent possible. Deuxième aspect, ça c'est toujours mon introduction, si vous avez besoin de pardonner, et s'il y a eu des personnes, vous pensez leur avoir pardonné, vérifiez que c'est fait. Et que c'est vraiment pardonné, mais du fond du cœur. Parce que tant qu'il reste en nous une forme de rancune, de rancœur, eh bien, nous ouvrons la porte aux démons. Ok. Ensuite, évidemment, il s'agit de se convertir et c'est tous les jours. Qui n'a pas besoin de conversion ? Bon, nous avons tous besoin de conversion, puisque la conversion, ça veut dire se tourner vers Jésus, et à travers lui, vers la Trinité, se tourner vers et se détourner de, eh bien, du vieil homme en nous. Le principal ennemi de l'âme, c'est le moi, moi et moi. Tout ça, vous le savez déjà. Si tout ça est OK, on peut prier. Mais sinon, s'il vous plaît, ne faites pas de prière de délivrance. Ça ne servira à rien que éventuellement d'agiter le démon dans son bocal. Il va revenir en force. Pourquoi ? Parce qu'il y a des pardons qui ne sont pas donnés. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abandonnées. Bon. Vous êtes déjà convaincus, merci. Et puis la dernière étape, c'est demander évidemment la bénédiction. Aujourd'hui donc, nous allons essayer d'approfondir le domaine de la prière. Donc la prière, nous avons bien entendu que la prière n'est pas une formule. Alors vous allez me dire, oui, mais Jésus, il a donné le Notre Père. Mais le Notre Père, comme le Je vous salue Marie, toutes ces prières sont à prier avec le cœur. Rappelons-nous cette parole de l'Ancien Testament, ce peuple m'honore avec les lèvres, mais son cœur est loin de moi. Alors attention à la façon dont nous allons prier même un Notre Père. Vous avez peut-être vu le sketch sur le Notre Père, vous pouvez le voir sur YouTube, c'est assez drôle. Vous pouvez vous rentrer sketch du Notre Père. C'est le garçon qui va prier son Notre Père, et puis il y a une voix off qui m'a appelé, je suis là. Quand il est temps de pardonne-nous nos offenses, la voix off qui dit « Et Brigitte ?» Et l'autre dit « J'étais sûr que tu allais me parler de Brigitte. » « Non, non, je ne peux pas lui pardonner. » Et à la fin, il lui pardonne. Alléluia. Donc, ça n'est pas une récitation de formule. Bon, c'est une grâce, on le sait, parce que Romains 8 nous dit que c'est l'Esprit Saint qui vient crier en nous « Abba, Père !» Mais comment se disposer à cette grâce? Voilà, ça va être notre propos aujourd'hui encore, mais on l'a un peu vu la dernière fois quand même, comment se disposer à la grâce. Ils ont vu que, eh bien, il s'agit de se présenter à Dieu comme son enfant, c'était notre premier enseignement, et la dernière fois, nous avons parlé de l'importance de la foi, de l'espérance, la charité, la prière, c'est vraiment tout ça. On aime Dieu et on aime les autres aussi. Et ça, on le met en œuvre dans la prière. C'est aussi l'humilité et puis la persévérance. Voilà, aujourd'hui, donc, je vais un petit peu insister au début, parce que nous venons de fêter Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc, je ne résiste pas à la tentation de vous rappeler pour Sainte Thérèse quelle a été la clé de sa prière. Et ça, c'est l'histoire d'une vie. Et je pense que là, nous avons beaucoup à entendre de la part de Sainte Thérèse, puisque la prière va consister déjà à entrer dans le Saint des Saints, d'accord ? Le Saint des Saints qui est notre cœur. Mais, il y a souvent des empêchements. Alors, dans les empêchements, on a parlé du silence la dernière fois. Il y a le manque de silence, oui. Le manque de recueillement, tout ça, c'est des empêchements. Mais il y a peut-être un empêchement plus grave encore, et qui a comme empoisonné la vie de Thérèse, en tout cas dans ses débuts, pratiquement jusqu'à 3 ans avant sa mort, même 2 ans avant sa mort. Vous voyez ? Autant qu'on écoute ce qui s'est passé. Alors, ce qui se passait, si vous voulez, surtout dans un contexte très rigoriste, de la fin du 19e, encore très, très influencé par le jansénisme, eh bien, on avait l'obsession du péché mortel. Bon, aujourd'hui, on ne l'a peut-être pas assez, il faut le dire. Trouvons un juste milieu. Mais à tel point que, dans les instructions, on insistait tellement sur le péché mortel, eh bien, la pauvre Thérèse, qui était scrupuleuse, de tempérament, était littéralement enfermé dans ces interrogations, mais est-ce que le bon Dieu est content de moi ? À son procès de béatification, une de ses sœurs va dire cette parole, nul ne sait s'il est digne d'amour ou de haine, qu'elle a entendue pendant une prédication, d'accord ? Nul ne sait s'il est digne d'amour ou de haine. lui fit un jour verser bien des larmes, jusqu'à ce qu'elle fût consolée par l'explication qui lui en fut donnée. Alors donc, Thérèse a beaucoup de scrupules et elle se pose toujours la question, mais est-ce que le bon Dieu est content de moi? Et elle va en parler à ses confesseurs, et ses confesseurs, au début, ils gaffent un peu, quoi, parce qu'elle leur parle de son désir de sainteté, et l'abbé Louf, qui était le confesseur du Carmel, lui dit « Oh, modère un peu tes ardeurs, toi ». Enfin, il ne la tutoyait pas, quoi, hein, d'accord. Donc, ce n'était pas gagné d'avance. Mais il a fallu qu'elle rencontre des pères spirituels, père Pichon, qui était un jésuite, et puis le père Alexis Proux, et qui était un franciscain, pour qu'elle soit assurée, vous entendez bien, assurée, qu'elle n'a jamais commis un péché mortel. Parce qu'elle n'en était pas sûre, jusqu'à l'âge de 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, et pratiquement 21 ans. C'est un peu lourd. Parce que dans sa tête, si j'ai commis un péché mortel, est-ce que le bon Dieu est content de moi? En gros, est-ce qu'il m'aime? C'est ça la question qu'on entend derrière. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question vous-même, parce que l'amour, tel que nous le ressentons, c'est un amour d'émerveillement. Je vois quelque chose de beau, comme il est écrit dans la Genèse, Dieu vit que cela a été bon. Il nous aime et on peut entendre que comme créateur, il nous dit mais que tu es beau, que tu es belle. Voilà. Sauf que il y a eu le péché originel et il y a cette malédiction du péché originel qui me poursuit, qui nous poursuit. Nous avons une fâcheuse tendance à faire le mal que nous ne voudrions pas faire. Parfois, nous faisons même le mal. Bon. Alors, quel regard Dieu a-t-il sur nous? Est-ce qu'il nous aime encore? C'est ça la question. Alors, quand votre enfant a fait une grosse, grosse bêtise, est-ce que vous l'aimez autant que lorsque il a fait une très, très belle chose? Qui s'est décarcassé pour vous. Franchement, on est entre nous. Est-ce que vous l'aimez autant? Alors, pour Thérèse, c'était pas évident. Et elle va jusqu'à, c'était en 96, elle meurt en 97. Elle va avoir un songe. Dans la vie de Thérèse, il n'y a pas beaucoup de songes. Enfin, en tout cas, pas beaucoup d'expressions mystiques extraordinaires. Mais là, elle a un songe. Et elle voit la vénérable Anne de Jésus, qui est la fondatrice du Carmel en France. Et elle lui pose la question, est-ce que le bon Dieu est content de moi? Et elle lui dit, oui. Oui, il est très content. Sauf qu'il a fallu quand même qu'il se passe un miracle. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est en 95, donc 2 ans avant sa mort, elle a l'intuition de son offrande à l'amour miséricordieux. Que s'est-il passé? Parce qu'à ce moment-là, elle dit que si elle avait commis tous les crimes possibles, elle garderait la même confiance. Ce n'était pas le cas avant. D'accord? Avant, elle avait absolument besoin de savoir quand même si elle n'avait pas fait un péché grave. Alors, pour se faire comprendre, elle va donner une parabole. La parabole du lapin blanc, vous connaissez? Elle me disait, est-ce qu'un père gronde son enfant quand lui-même s'accuse? Lui inflige-t-il une pénitence? Non, bien sûr, mais il le presse sur son cœur. À l'appui de cette pensée, elle m'en rappela une histoire que nous avions lue dans notre enfance. Un roi partit à la chasse, poursuivant un lapin blanc, que ses chiens allaient bientôt atteindre. Quand le petit lapin, se sentant perdu, rebroussa chemin rapidement et sauta dans les bras du chasseur. Celui-ci, touché de tant de confiance, ne voulut plus se séparer du lapin blanc, ne permettant à personne d'y toucher, se réservant lui-même le soin de le nourrir. « Ainsi le bon Dieu fera-t-il avec nous, me dit-elle, si poursuivi par la justice, figurée par les chiens, nous cherchons refuge dans les bras même de notre juge. » Alors, la justice dont parle Thérèse, c'est la justice qui nous habite. Et si nous nous regardons dans la glace, nous voyons éventuellement notre pire ennemi, l'accusateur de nos frères. Parce que nous avons parfois une certaine accointance avec celui qui est nommé l'accusateur. Nous sommes habités par ce schéma de la justice, œil pour œil, dent pour dent. Alors, il y a une autre façon d'y échapper, c'est de prétendre n'avoir aucun péché. Mon père, je ne me confesse pas, j'ai pas de péché. Ah bon ? Ok. Ça, voilà. Mais si nous sommes honnêtes, nous voyons bien que nous n'aimons pas au quotidien comme Jésus aime. Donc on pourrait se confesser tous les jours de notre péché d'insuffisance. Alors, comment faire pour sortir de ce dilemme ? Eh bien, chez Thérèse, elle dit carrément que lorsque nous voyons notre incapacité de suivre le Seigneur, lorsque nous voyons notre péché, ce que les mystiques ont appelé le néant, notre néant, eh bien, au lieu de nous tenir à l'écart, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Nous pouvons nous propulser dans le cœur de Dieu. Voilà le message de Thérèse. Alors, ce n'est pas forcément évident, vous avez fait une grosse bêtise ou vous vous sentez en dessous du niveau. Bon, pour le péché véniel, on se sent en dessous du niveau. Eh bien, le fait de se sentir en dessous du niveau requis, aimez-vous comme je vous ai aimé, c'est une catapulte dans le cœur de Jésus. Est-ce que je me fais entendre ? Et ça, c'est une clé extraordinaire pour entrer dans la prière. Désormais, le fait de nous sentir mauvais, ou moyen, ou, vous voyez, en dessous du niveau, n'est plus quelque chose qui va nous éloigner de la prière, mais au contraire, quelque chose qui va nous faire entrer de plein pied. Ça y est, on entre dans le Saint des Saints. Alors, vous savez, un jour, on a présenté à Thérèse une image, vous savez, comme on en faisait beaucoup au 19e, un peu Saint-Sulpice, vous avez Jésus, et puis il a sur ses genoux un petit enfant qui lui caresse la barbe, avec insistance, comme ça. Puis l'autre enfant très sage, à ses pieds. Commentaire de Thérèse, moi je préfère celui qui est assis sur ses genoux. Alors allez-y et allons-y. Et puisque Thérèse, c'est Thérèse, vous savez, c'est un cœur, elle a quelques points communs avec Jeanne d'Arc, voilà ce qu'elle dit dans son manuscrit C. Le Tout-Puissant a fait de grandes choses en l'âme de l'enfant, de sa divine mère, et la plus grande, c'est de lui avoir montré sa petitesse, son impuissance. Vous voyez, dans notre esprit cartésien, c'est pas logique. Parce qu'on aurait aimé, plutôt, que Dieu nous montre toutes nos qualités. Il le fait, entre nous, il le fait. Mais, elle dit, la plus grande grâce, c'est pas qu'il nous ait montré toutes mes qualités, mes potentialités, tout ça. La plus grande grâce, il m'a montré mon impuissance. Waouh. Et elle dit aussi, « Toutes les créatures peuvent se pencher sur elle, l'admirer, l'accabler de leur louange. Je ne sais pourquoi, mais cela ne saurait ajouter une seule goutte de fausse joie à la véritable joie qu'elle savoure en son cœur, se voyant ce qu'elle est aux yeux du bon Dieu. Un pauvre petit néant, rien de plus. Vous voyez, il nous faut une conversion de l'intelligence, parce que, bon, je ne sais pas comment vous êtes, si je me fais traiter de petit néant, je n'ai pas l'impression d'être aimé, pas pour vous. Hein. Mais par contre, si le Saint-Esprit, je dis bien, hein, pas l'ennemi de nos âmes, l'accusateur, si le Saint-Esprit nous montre à quel point nous sommes loin sans Dieu, alors là, c'est ce qui nous permet de déclencher la catapulte. Nous sommes catapultés dans le cœur de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Mais c'est une grande découverte. Qu'est-ce que c'est extraordinaire? Plus vous avez conscience, nous avons conscience d'être des tout petits, plus vous êtes, eh bien, ouvert, à condition que vous ayez confiance, bien sûr, ouvert à l'amour de Dieu. Parce qu'on lit dans le début des manuscrits de Thérèse, vous le lisez au manuscrit A, que le jardin du monde, dans le jardin du monde, il y a différentes fleurs. Elle reprend, vous savez, cette image biblique qu'on trouve dans les psaumes, dans Isaïe, l'homme n'est qu'une herbe, un souffle passe, voilà, il n'est plus. Et Thérèse va reprendre ça. Donc il y a des fleurs qui sont nobles et que tout le monde voit, les roses, les lys, etc. Et puis il y a des fleurs qu'on ne voit pas, les pâquerettes, les violettes. Et l'intuition de Thérèse, c'est de dire, mais Dieu montre d'autant plus sa puissance qu'il va descendre plus bas. C'est-à-dire qu'il va se mettre à quatre pattes, permettez-moi cette image, pour descendre jusqu'à la plus petite fleur, à la limite celle que personne n'avait vue. Et cet élan qui pousse Dieu à descendre, ça s'appelle la miséricorde. Et la miséricorde, c'est la qualité première de Dieu. Qualité première de Dieu. Miséricordare, on trouve ça dans le petit catéchisme de sa sœur Céline, donner sa misère au cœur, donner son cœur au pauvre, ça y est, j'y suis. Donner son cœur au pauvre. Vous voyez qu'il faut avoir beaucoup de force pour ça. La miséricorde, chez nous, on va dire, vous êtes déjà bien avancé en sainteté, donc ça va, quoi. Mais pour, vous voyez, c'est pas forcément évident pour commun des mortels. Quand vous voyez quelqu'un qui est hyper souffrant physiquement, avec le visage déformé, bon, c'est pas évident pour vous d'aller faire comme Saint François, hein, d'aller embrasser le lépreux. D'accord ? Alors, quand c'est une misère spirituelle, c'est-à-dire que vous avez affaire à un pécheur notoire, bon, vous et moi encore, mais quelqu'un, on va dire, où ça se voit un peu plus. Vous voyez ? Parce que souvent, on a tendance à confondre le pécheur et le péché. Alors, quel est le regard de Dieu sur le pécheur? Lui fait la différence. La preuve, la pécheresse qui vient chez Simon et qui va déverser ce parfum sur ses pieds, et l'autre qui se dit dans son cœur, si cet homme était vraiment prophète, il verrait bien qu'elle est pécheresse. Mais lui, il fait la différence entre le pécheur et le péché. Et saint François d'Assise, que nous fêtons aujourd'hui, il dit que là où nous voyons une faute à blâmer, Dieu voit, eh bien, je me rappelle plus de ces termes exacts, une infirmité spirituelle à secourir. Vous voyez la différence ? À secourir. Il est venu, non pas pour juger, mais pour sauver. Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Voilà. Et il n'est pas venu pour juger, mais pour sauver les âmes. Et il le fait, non pas avec des pincettes, vous voyez, parce qu'on sent mauvais, le péché ça sent mauvais. Mais il le fait en plongeant jusque dans le fond de l'abîme. Lui qui était de condition divine, il ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, Philippiens 2. Et ce qui nous donne cette belle définition de l'amour de Thérèse, l'amour de miséricorde, pour que l'amour soit satisfait, il faut qu'il s'abaisse jusqu'au néant et qu'il transforme en feu ce néant. Alors, est-ce que nous comprenons que le cœur de Dieu est attiré d'abord, non pas par nos qualités, mais par notre néant ? Est-ce que nous comprenons ça ? Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous nous livrions à lui complètement. Vous connaissez cette histoire de Sainte Faustine ? Elle le raconte dans son journal. Sainte Faustine qui dit qu'un jour, elle dit au Seigneur, je t'offre tout, je t'ai tout offert. Oui, parce que Jésus lui a demandé, mais qu'est-ce que tu me donnes aujourd'hui ? Mais elle lui répond, mais je t'ai tout donné, j'ai fait les 3 vœux, bon, qu'est-ce que je peux faire de plus ? Et il lui dit, donne-moi ta misère. Alors attention, ce qu'il nous faut comprendre, c'est que tout cela se passe dans l'amour. Si vous allez vous confesser, très bien, faites-le dans l'amour. Faites pas la liste des péchés, et maintenant je suis en règle. Ça, c'est pas le vrai Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Est-ce que nous comprenons l'amour du Père pour nous ? Et si nous entendons ce message de Thérèse, alors nous entrons dans le Saint des Saints. Et c'est la condition, j'allais dire, de la prière. Souvent, nous n'entrons pas dans le Saint des Saints. Oui, on a toutes les techniques, on a fait des retraites éventuellement sur la prière, on nous a dit il faut se recueillir, il faut faire silence, etc. On sait tout ça. Mais ce qui nous manque, c'est cette audace de l'enfant qui se jette dans les bras de son père. Il faut beaucoup d'audace. Évidemment, si nous le faisons en vérité, dans l'amour, c'est que nous tournons vers l'amour, celui qui est l'amour. On ne va pas dire « oui, bon, je me confesse aujourd'hui, comme ça je pourrai commencer mes bêtises ». Ça, ce n'est pas de l'amour. Vous voyez ? Voilà. Alors, donc, nous allons entrer par cette porte qui est étroite, la porte de la confiance dans la miséricorde. Il n'est qu'amour et miséricorde. C'est la dernière lettre de Thérèse qu'elle a écrite au crayon parce qu'elle ne pouvait plus tenir un stylo. Et ça, c'était en été 97, juste avant sa mort. C'est très beau parce que l'abbé Bélière, c'était un de ses pères spirituels qui avait beaucoup de scrupules aussi. Et pour ça, il ressemblait un petit peu à Thérèse, à la Thérèse d'avant. Il disait, je me sens tellement pauvre que c'est tout juste si je vais ramper, c'était pas vraiment ces mots, mais ça veut dire ça, ramper au pied de Jésus. Alors qu'il y a une partie de moi-même qui a envie de me jeter dans ses bras. Thérèse lui répond, n'écoutez pas cette première inspiration que vous avez, elle est mauvaise. Écoutez la deuxième, jetez-vous dans les bras de Jésus, car il n'est qu'amour et miséricorde. Et dans cette dernière lettre, qui est en fait la légende d'une image qu'elle a dessinée elle-même, qui représente une hostie. Et dans l'hostie, il y a l'enfant Jésus qui ouvre les bras. Et au dos de cette image, je ne crains pas un Dieu qui s'est fait tout petit, si petit pour moi. Non, je l'aime, car il n'est qu'amour et miséricorde. Voilà. Alors, réjouissons-nous quand Dieu nous montre notre impuissance. Ça peut être à l'occasion d'épreuves que nous avons tous dans nos vies, hein. Des épreuves plus ou moins lourdes, ça peut être la santé, ça peut être des épreuves extérieures, ou, enfin bref, je ne lis pas la liste des épreuves, vous les connaissez mieux que moi, et à l'occasion des épreuves, c'est aussi pour nous, eh bien, cette catapulte de notre cœur vers le cœur de Jésus qui est sollicité. Même si vous ne sentez plus Dieu, vous sentez que Dieu serait loin, non, il n'est jamais loin. Mais par contre, vous avez en vous juste ce sentiment de comme d'un néant. Où est-il ton Dieu? Alors là, vous pouvez y aller. Et vous pouvez trouver cette porte d'entrée de la prière. D'accord? Allez-y. Je vous encourage. Alors, on va donner juste quelques thème de la prière qui est une arme contre le démon, évidemment. Mais vous savez, pour lutter contre le démon, l'arme la plus efficace, c'est donc la conversion. Que le lieu de notre cœur soit un lieu où Dieu règne, c'est logique, non ? Qu'il n'y ait plus de place pour le démon. Et pour cela, eh bien, la prière devient comme une façon de vivre en présence de Dieu. Pour ceux qui ont écouté la maman de Carlo Acutis, qui est venue dans notre région, elle le dit très bien, c'est le but de l'Eucharistie. Si on peut avoir l'Eucharistie tous les jours, comprenez bien que ce n'est pas juste un rituel comme ça, c'est... Le but, c'est d'être ce tabernacle vivant de Jésus. Et si Jésus habite en vous, alors le démon, il ne peut rien faire. Il peut peut-être vous embêter, oui, mais c'est tout. D'accord? C'est tout. Alors, allons-y. Vivons dans la prière. Vivons en présence de Dieu. C'est comme un réveil intérieur. Première porte d'entrée, c'est de croire, avoir confiance que Dieu est miséricorde, que son amour le penche vers nos misères et ne l'éloigne jamais de nos misères. Il nous attend, il nous guette comme le Père du Fils prodigue. Deuxième clé, c'est la parole de Dieu. Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10. Proclamons la parole de Dieu. Ce n'est pas une mauvaise chose, j'allais dire, c'est une très bonne chose aussi. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, chez nous, même tout seul, de la proclamer. Proclamons la parole de Dieu. Elle est puissante. C'est une parole vivante. J'espère que chacun d'entre nous a fait cette expérience. Cette parole n'est pas juste comme ce qu'on peut lire dans des livres. C'est une parole qui parle au cœur, qui change une vie. Rien qu'une parole. Alors ça, c'est la deuxième porte. La troisième porte, dans notre vie de prière, que notre prière ne soit pas que des demandes. Seigneur, donne-moi et donne-moi. Et donne-moi, et moi, maman. Voilà. Non, ça vient après. Que notre prière soit d'abord adoration et louange. Action de grâce. Ça, ça vient en premier. Alors vous allez me dire, je n'ai pas très envie d'être dans l'action de grâce quand tout va mal. Eh bien, c'est un tort. Enfin non, vous avez raison, on n'a pas très envie. Mais l'action de grâce, la louange, l'adoration, c'est l'expression de notre foi. Et quand on ne sent plus rien, quand on a l'impression que Dieu est loin, il nous reste la foi. Et c'est ça qui a besoin d'être exercé. Je ne sais pas si vous faites un peu de sport tous les jours. Bon, au moins deux fois par semaine, il paraît. Un petit peu de gymnastique, sinon ça rouille. Vous voyez, le corps, on a du mal, etc. Eh bien, l'âme, c'est pareil. Si nous ne mettons pas en premier l'adoration, la louange, l'action de grâce, vous allez voir que tout ça, ça va se rétrécir comme une peau de chagrin. Et il va vous rester, Seigneur, donne-moi, 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 moi, moi, moi. Du coup, vous ne priez plus. Vous parlez de vous. Qu'est-ce que vous faites dans la prière? Je parle de moi, moi et moi. Waouh, quel horizon! Non, dans la prière, nous nous ouvrons à autre que nous-mêmes, et la meilleure façon de nous ouvrir à autre que nous-mêmes, c'est la louange, l'adoration, et l'action de grâce aussi, évidemment. Alors, l'adoration, on en a parlé plusieurs fois ici, dans plusieurs apparitions de la Sainte Vierge, je pense au moins à celle de Fatima, ça commence, tout commence par un ange, Garamondal aussi. Et l'ange, qu'est-ce qu'il fait? Il apprend aux enfants à adorer. Vous voyez? Donc ça, c'est une bonne école. Apprenons à adorer. Ça veut dire quoi, adorer? Deux gestes dans l'adoration. Je me prosterne, parce que Dieu est Dieu. La tête contre terre. Si je peux, complètement couché par terre. Parce que Dieu est Dieu. Si je suis à genoux au moins, c'est pas mal. Pourquoi? Parce qu'à genoux, je ne peux pas partir en courant. C'est la position de celui qui reconnaît que en Dieu seul est le règne, la puissance et la gloire. En Dieu seul. Moi, je ne suis pas debout devant Dieu comme ça. Bon, vous avez vu que à Lourdes, Bernadette, elle est à genoux. Pas si... Parce que c'est vrai qu'on a supprimé souvent les prières dans les églises, moi je le regrette beaucoup. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de prier avec le corps. Et donc, première attitude, c'est prokinésis, en grec, c'est se prosterner. Parce que Dieu est Dieu. Isaïe 55, les pensées ne sont pas vos pensées, dit le Seigneur. D'accord? Donc on va préférer les pensées de Dieu aux nôtres. C'est pour ça que la tête, elle peut être par terre de temps en temps, quoi, devant Dieu. Ça, c'est le premier geste de l'adoration. Le deuxième geste, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, ce que Thérèse nous dit. Eh bien, nous allons nous blottir dans les bras du Père. Il nous attend. Alors, nous nous blottissons dans le cœur de Jésus. N'oublions pas que l'Eucharistie, c'est le cœur de Jésus, dans tout, pratiquement, hein. Quand il y a des miracles eucharistiques, l'hostie est transformée en morceaux de cœur, de myocarde. Et le sang est le sang d'une personne vivante, elle n'est pas morte, il y a encore des globules blancs. D'accord? Donc c'est bien le cœur de Jésus dans l'Eucharistie, on peut y aller. Donc allez adorer, vraiment, allons adorer et pratiquons cette louange et cette action de grâce. Bon, si vous n'êtes pas convaincu, eh bien, retenez au moins Philippiens 4, 6. Philippiens 4, 6, vous savez, dans le renouveau charismatique, il y a des paroles qu'on connaît par cœur. Il y avait Philippiens 4, 6 et 1 Thessaloniciens 5, 16. Vous y êtes? Alors, on y va. Philippiens 4, 6. N'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière, pénétrer d'action de grâce pour présenter vos requêtes à Dieu. Voilà la différence entre une prière chrétienne et une prière païenne. Parce que si tout cela n'était pas pénétré d'action de grâce, eh bien on serait dans une prière païenne. Seigneur, moi, moi, moi. C'est-à-dire, je veux annexer la puissance de Dieu à moi. Seigneur, moi. Et si le Seigneur ne s'occupe pas de moi, eh bien, je lui tourne le dos. Alors ça, c'est des purifications, peut-être que nous avons passé dans nos vies, oui, parce que Dieu nous traite comme des enfants maintenant, mais pas des petits. Mais il nous traite vraiment avec de la nourriture solide. Alors, nous rendons grâce. Et 1 Thessaloniciens 5, 16, « Soyez toujours joyeux et prions sans cesse en toutes choses. Rendez grâce à Dieu, c'est sa volonté sur nous dans le Christ. Gloire à toi, au Seigneur notre Dieu. » On reconnaît les vieux routiers et du renouveau charismatique. Bravo. Alors, c'est bien de le connaître par cœur, et c'est moins évident à appliquer. Je ne sais pas si vous avez lu « La puissance de la louange » de Merlin Carothers. Alors, avec l'accent, Merlin Carothers. Bon. Et, en fait, c'est ses livres des années 70, là, où il raconte comment lui, avec la louange, dans toutes circonstances, même quand tout va mal, eh bien, le chemin s'ouvre. Alléluia. Alors, soyons un peu fous. Vous recevez une tuile sur la tête. Alors, merci Seigneur, non pas pour la tuile, parce qu'on sait que ça vient du démon. Hein. On ne va pas dire merci pour la tuile, etc. Mais on dit merci Seigneur, parce que en cette circonstance, tu déploies ta puissance. Alléluia. Je proclame ton saint nom. Allons-y. Dans ces problèmes, Seigneur, je proclame ton saint nom et je dis ta louange, j'élève le nom de Jésus sur cette problématique, sur cette vente qui est bloquée, sur ce procès. J'élève ton saint nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Bon, vous voyez, c'est facile. Alors, allons-y. Alors, pourquoi c'est important de toujours être dans l'action des grâces? Parce que Jésus lui-même nous le dit. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Ça marche ? Croyez que vous l'avez déjà reçu. Et si vous l'avez déjà reçu, vous dites quoi ? Merci Seigneur. Même si c'est dans 20 ans qu'on va le recevoir ou post-mortem. Mais on a prié quoi ? Et si c'est la volonté de Dieu, ça va se faire. J'ai passé un temps de ma vie chez les frères d'Ourscan. Pour ceux qui connaissent les frères d'Ourscan, c'est dans l'Oise. J'ai passé un an là-bas. Et je trouve que leur fondation est très intéressante, parce que c'est le père Lamy qui voyait la Sainte Vierge et tout, vous voyez. Et la Sainte Vierge lui demande de fonder une congrégation. Ils fondent la congrégation et la congrégation se casse la figure. Et ils meurent. Sauf que la congrégation va être refondée par un de ses amis après sa mort, vous voyez. Donc, on peut avoir confiance. Ça marche ? Très bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça c'est aussi une parole, à connaître par cœur. Vous connaissez la référence ? Romains 8, 28. Romains 8, 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, attention à l'auto-malédiction. Même quand vous priez « Seigneur, moi, 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 Seigneur, moi, moi, moi », eh bien, vous êtes dans une auto-malédiction. Cette maman qui venait nous parler de son fils drogué à fond la caisse, et elle priait beaucoup, et on lui dit « Qu'est-ce que tu racontes à Dieu pendant ta prière ?» Ben, elle a dit « Je raconte mes problèmes ». Donc, elle était dans la malédiction pendant assez longtemps. Donc, elle s'est convertie, cette femme-là, dans sa prière, et elle a loué le Seigneur. Et son fils, il n'a pas eu très longtemps à mettre pour revenir dans le bon sens. Alors, allons-y. Trouvez plein d'exemples comme ça dans l'Écriture. On parle, par exemple, Paul et Silas qui sont à Philippe et qui sont en prison. Et ils chantent les louanges de Dieu, même à minuit. Vous voyez, à minuit, ils chantent les louanges de Dieu. Et puis, il y a un tremblement de terre et ils sont libérés par un ange. Voilà. vous avez l'exemple de la conquête de Jéricho, hein, qui font pendant 7 jours de suite, on fait le tour de Jéricho. Alors maintenant, vous pouvez trouver sur Internet la prière de Jéricho pendant 7 jours de suite, une prière pour proclamer la victoire de Jésus. Moi, je vous le conseille. Hein. Voilà, la prière de Jéricho, c'est très très bien. Un autre exemple, 2 Chroniques 20, enfin, tout ça vous connaissez par cœur, où en fait c'est l'histoire de Josaphat qui a peur devant tous ses ennemis. Et en fait, le Seigneur parle par un prophète et il dit « Ne craignez pas, ne vous effrayez pas devant cette foule immense, ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu. » Et ils vont louer le Seigneur et ils n'auront même pas à combattre. Alléluia. Vous avez aussi l'histoire des jeunes dans la fournaise, dans le livre de Daniel. Alors, si vous avez l'impression d'être dans une fournaise dans votre vie, rien ne va, tout est dur, eh bien, il suffit d'imiter Shadrach, Meshach et Abednego. Daniel 3. Vous rappelez cette parole de Jésus à Saint-Siloine du mont Athos. Tiens ton âme en enfer et ne désespère pas. Ça fait envie, hein. Bon, la façon de ne pas désespérer, vous voyez, les vertus théologales, c'est comme le sport. Si on ne les exerce pas, elles s'atrophient. Si tous les jours, vous n'avez pas ce temps de prière dans la foi et dans l'espérance, alors votre prière risque de s'atrophier. Puis vous allez dire, oh oui, mon Père, je dis mon Notre Père et mon Je vous salue Marie tous les matins. Ok, bon, tu le dis ou tu pries? Bon, en fait, notre prière risque d'être formelle. Attention, hein, ceux qui reviennent de Medjugorje, on y va bientôt d'ailleurs. Il y a encore de la place, Marie-Martine? Oui. Ceux qui reviennent de Medjugorje, ils disent « Ah, il faut absolument le rosaire tous les jours. » Je suis d'accord, c'est ce que demande la Sainte Vierge. Mais si vous priez votre rosaire, comme ça, bon, vous voyez ce que ça veut dire. Ça ne va pas. Prions, vraiment. Et prier, c'est exprimer sa foi, son espérance, et son amour. Waouh, ça fait du bien. Alors, justement, nous avons dit la clé de la prière, c'est la miséricorde, c'est la parole de Dieu, c'est la louange, l'adoration, l'action de grâce. N'oublions pas de prier, évidemment, le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit là dans votre prière au jour le jour. Et puis, parlons un peu du rosaire, justement. Vous connaissez cette parole assez connue de Saint-Louis Marie Grignon de Montfort dans le traité de la vraie dévotion. Marie doit être terrible au diable et à ses suppôts comme une armée rangée en bataille. La plus terrible des ennemis que Dieu ait faite contre le diable est Marie, sa Sainte Mère. Satan, étant orgueilleux, souffre infiniment plus d'être vaincu et puni par une petite et humble servante de Dieu. Et son humilité l'humilie plus que le pouvoir divin. Dieu a donné à Marie un si grand pouvoir contre les diables qu'ils craignent plus, comme ils ont été souvent obligés d'avouer, malgré eux, par la bouche des possédés, un seul de ses soupirs pour quelque âme que les prières de tous les saints. Bon, là, on est avec Saint-Louis Marie Grignon de Montfort, vous voyez, c'est du feu. Ce que Lucifer a perdu par orgueil, Marie l'a gagné par humilité. Bon, on pourrait continuer cette lecture, c'est super, c'est passionnant. Alors, vous savez que Bartolo Longo va être canonisé, j'ai lu ça, très bientôt, le 19 octobre. Alors, qui est Bartolo Longo? C'est un monsieur qui a vécu, il est né en 1841, est mort en 1926, Et à l'âge de 20 ans, il est consacré prêtre satanique. C'est un gars assez brillant, il est avocat, et du coup, voilà, il fait des séances sataniques, de l'occultisme, de la divination, il est médium, enfin bref. Il paraît que lorsqu'il a fait sa consécration aux démons, les murs ont tremblé, tout le monde a eu peur. Je ne sais pas s'il a eu peur aussi, mais en tout cas, il a quand même donné quelques petits signes de faiblesse et il a été plongé dans la dépression, ce qui fait que lorsqu'il rencontre un bon ami d'enfance qui s'appelle Vincenzo Pepe, eh bien, il va progressivement se convertir. Et qu'est-ce qui a libéré Bartolo Longo? C'est la prière du rosaire. Un jour, il entend, eh bien, il était dans une profonde crise de désespoir, et il y a une voix, il dira que c'est la Sainte Vierge, qui lui dit, si tu cherches le salut, répands le rosaire. Si tu cherches le salut, répands le rosaire. Alors, à Pompéi, il va installer eh bien, d'abord des groupes de prière, il a fait des processions, et puis il a fait construire, avec toute cette œuvre-là, le fameux sanctuaire de Pompéi, dédié à Notre-Dame du Rosaire, un lieu extraordinaire. Si vous allez en Italie, je vous conseille d'aller là-bas, c'est à côté de Naples, Pompéi. Voilà. Donc là, il est donc béatifié, il est vénérable, il a été béatifié en 1980 et il va très prochainement être canonisé. Et il définissait le rosaire comme la douce chaîne qui nous relie à Dieu. Alors attention donc à la façon de prier le rosaire. Ne nous transformons pas en des machines à prière. Prions avec le cœur, me dit la Sainte Vierge, à Medjugorje et ailleurs. Priez toujours avec le cœur. Si on peut rajouter le jeûne, si on a envie quand même de lutter contre les forces démoniaques, c'est très bien. Pourquoi le jeûne? Parce que quand vous jeûnez, quand nous jeûnons, nous disons à Dieu, c'est toi ma nourriture. L'homme ne vit pas seulement de pain. Est-ce qu'on en est convaincu? Parce que souvent, bon, hein, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais on va quand même s'arranger à prendre des repas comme il faut, comme il faut, comme il faut. Mais le jeûne, c'est vraiment de dire, Seigneur, je crois, ta parole, elle est plus importante encore. Parce que c'est la nourriture de mon âme. Et si mon âme est morte, mon corps, je peux le faire vivre, mais mon âme, elle est morte. Alors, de temps en temps, ça fait du bien de jeûner. Vous voyez ? Alors, si vous avez pu à jeûner, il y a une autre façon de jeûner. Plus de télévision, plus de cigarettes, pas de sucre. Bon, des trucs comme ça, enfin voilà, vous allez être inspiré, il n'y a pas de souci. Voilà. Ou alors vous faites un bon pain à l'épeautre. Bon, je vous donne des recettes à moi, mais pas. Enfin, pas le pain blanc de boulanger, vous savez, il vaut mieux à la limite de rien manger. Enfin, un truc, voilà. Mais le jeûne, vous savez, c'est vrai que les orthodoxes ont gardé cette tradition du jeûne le mercredi et le vendredi. Sinon, on l'a perdu, du moins pour le mercredi. C'est ça que la Sainte Vierge le redonne à Medjugorje, le jeûne du mercredi aussi. Parce que dans la Semaine Sainte, le mercredi, on fait mémoire de la trahison de Judas. C'est ça qu'on va jeûner ce jour-là. Il faut dire au Seigneur, c'est toi qui me fais vivre, mais d'abord par ta parole. Dieu dit et cela est. Et ça, c'est vrai que c'est très puissant, mais attention, avec amour. Si vous jeûnez juste parce qu'il faut jeûner, vous aurez mal à la tête, vous allez penser que ça, vous aurez toujours des obsessions, enfin, ça ne va pas marcher, quoi. Voilà, voilà. Alors, donc, on a à peu près les ingrédients d'une prière chrétienne qui est l'arme numéro 1 contre le démon. Je vais rajouter quand même une chose. Si nous bénissons Dieu, bénissons aussi les autres. Vous savez, il y a assez souvent des personnes qui nous appellent, nous les exorcistes, parce qu'ils nous disent qu'on fait de la magie noire sur eux. Alors, notre première réponse, c'est de dire « Bénissez ceux qui font de la magie noire sur vous. » Bénissez. Alors, ça ne veut pas dire qu'on bénit, qu'on approuve, évidemment qu'on n'approuve pas. Mais la bénédiction est une arme. Est-ce qu'on pense à l'utiliser? Est-ce qu'on pense... Vous savez, c'est bien d'avoir du discernement. Telle personne, elle est ceci, elle est cela. Mais attention, elle n'est pas son péché. Bénissons ces personnes. Et là, c'est comme si vous leur coupez les ailes. Enfin, les ailes des démons qui sont autour. Vous coupez leurs ailes par la bénédiction. Bénis, Seigneur, cette personne. Bénis-la. Et allez-y, quoi, sans modération. Amen. Voilà. Alors, ok. Je propose, pour terminer, parce qu'il y aurait encore plein de trucs à dire, mais je propose, pour terminer, une prière. On va se lever. Puisque nous sommes en la fête de Saint François d'Assise, avec lui, nous allons prier le cantique des créatures. Très haut, tout puissant et bon Seigneur, à toi louange, gloire, honneur et toute bénédiction. À toi seul ils conviennent, ô très haut, et nul homme n'est digne de te nommer. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire Frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière, il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, et de toi le Très-Haut, il nous offre le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles, dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l'air, et pour les nuages, pour l'azur calme et tous les temps. Grâce à eux, tu maintiens en vie toutes les créatures. Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur eau, qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par qui tu éclaires la nuit, il est beau et joyeux, indomptable et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur, notre mère la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits avec les fleurs diaprées et les herbes. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi, qui supportent épreuves et maladies, heureux s'ils conservent la paix, car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur, la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui meurent en péché mortel, heureux ceux qu'elle surprendra faisant ta volonté, car la seconde mort ne pourra leur nuire. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie.
Et elle conçut du Saint-Esprit.